Bonjour, aujourd'hui on se penche sur des publications assez récentes, là de juillet 2025. Elles viennent d'un groupe, le Mouvement National Catholique, le MNC. L'idée c'est de décrypter un peu leur position.
C'est ça, on a effectivement plusieurs textes, ils abordent pas mal de sujets, les jours fériés, l'histoire, spécifiquement 1944-45, le conflit Israël-Iran, l'affaire Dreyfus aussi, et même la symbolique de leur mouvement.
D'accord. Donc, notre but ici, c'est vraiment d'extraire la substance de leurs arguments, hein, tels qu'ils les formulent eux-mêmes dans leurs écrits.
Exactement.
On précise bien qu'on rapporte ça à titre informatif. On n'adhère pas, on ne cautionne pas ces points de vue.
Non, bien sûr. L'objectif, c'est juste de donner un aperçu de cette perspective particulière. On pourrait peut-être commencer par leur réaction sur les jours fériés. C'est assez direct.
Oui, j'ai vu ça. Ils sont vent debout contre l'édit de supprimer le lundi de Pâques. C'était une idée attribuée à François Bayrou, je crois. Pourquoi cette opposition si forte?
Pour eux, c'est simple. C'est une attaque contre la religion catholique. Ils la considèrent comme fondatrice de la France. Ils font référence au baptême de Clovis en 496.
D'accord. Et ils ne font pas que s'opposer, ils proposent autre chose.
Ah oui, et c'est assez radical. Leur contre-proposition, c'est carrément de supprimer le 8 mai et le 14 juillet.
Ah oui, quand même. Les symboles républicains.
Voilà. Et à la place, rétablir la fête nationale au 15 août, jour de l'Assomption, et même rendre férié toute la semaine sainte et l'octave de Pâques.
Carrément toute la semaine. Et comment ils comptent financer ça?
Alors, d'après leur texte, ce serait par des coupes dans les subventions à des associations qu'ils qualifient d'anti-françaises. Ils parlent aussi de lutter contre la fraude et ce qu'ils appellent les privilèges des immigrés.
Cette volonté de redéfinir les symboles, l'identité, ça se retrouve aussi dans leur vision de l'histoire, non? Je pense à leur texte sur les martyrs de 44-45, reconnus par le Vatican.
Tout à fait. Le MNC, là, il conteste cette reconnaissance. Il ne croit pas que ces 50 personnes aient été tuées par les nationaux-socialistes en haine de la foi.
Ah bon? Et sur quoi ils s'appuient?
Ils avancent que beaucoup seraient mortes d'épidémies dues au bombardement allié, ou que les déportés étaient d'abord des opposants politiques. Mais leur argument principal, c'est surtout de mettre en lumière ce qu'ils nomment des martyrs oubliés.
Des martyrs oubliés, c'est-à-dire?
D'accord. Selon eux, ce seraient des catholiques, prêtres, religieux, laïcs, tués non pas par les Allemands, mais par des résistants communistes durant l'épuration, juste après la libération.
D'accord. Il donne des exemples?
Oui, il cite des noms comme l'abbé Donis, Françoise Armagnac. Il parle aussi des miliciens du Grand Bornand qui seraient morts chrétiennement. Ils accusent en fait une occultation de ces événements, une version politiquement correcte de l'histoire. Ils s'appuient sur des figures comme Maurice Bardèche et ils demandent la reconnaissance de ces authentiques martyrs français, comme ils disent.
On sent une lecture très critique de cette période. Est-ce que cette ligne se retrouve sur les questions internationales? Par exemple, leur position sur Israël et l'Iran?
Oui, très tranchée aussi. Suite à des frappes israéliennes en Iran, ils condamnent fermement ce qu'ils appellent l'agression sioniste.
Et ils soutiennent l'Iran?
Clairement. Ils expriment leur soutien à l'Iran, la grande nation perse, ennemie du terrorisme sunnite, et ils accusent ce qu'ils nomment l'entité sioniste de plusieurs choses. Génocide, soutien à l'EI, Palmudique.
Les mots sont forts. Et au-delà de la condamnation, ils demandent des actions.
Oui. Sanctions internationales contre Israël, comparution de Netanyahou devant la Cour pénale internationale. Ils critiquent aussi le soutien américain passé sous Trump. Et dans leur programme, ils veulent lever les sanctions contre l'Iran et reconnaître la Palestine.
D'accord. Revenons en France avec l'affaire Dreyfus, un sujet toujours sensible. Ils ont réagi à une proposition de le promouvoir général à titre posthume.
Oui, et là encore, opposition frontale. Ils qualifient ça de mystification, de récupération politique.
Quel est leur argument principal?
Ils rappellent que la Cour de cassation, en 1906, a annulé le jugement de Rennes pour vice de forme, mais sans se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence au fond.
Donc ils s'en tiennent aux condamnations initiales.
C'est ça. Il rappelle la condamnation de 1894, puis celle de Rennes en 1899, même si elle a été cassée ensuite. Ils le décrivent comme médiocre, voire potentiellement traître. Pour eux, cette proposition de promotion, c'est une instrumentalisation liée au contexte actuel de l'antisémitisme.
Pour bien comprendre qui ils sont, un mot sur leur identité visuelle.
leur emblème.
Oui, l'emblème est intéressant. Il combine une croix rouge sur fond blanc, référence aux croisades, à Godefroy de Bouillon, et un cercle bleu autour, qui évoque la croix celtique.
La croix celtique, symbole utilisé par l'extrême droite.
Exactement. Il l'associe à la chrétienté occidentale et au nationalisme radical de Pierre Sidos. Et la forme même de la croix, ils disent s'inspirer de celle des jeunesses du PPF de Doriot.
Le Parti Populaire Français ?
Oui, qu'ils présentent comme un mouvement qui luttait contre le communisme et ses alliés, qu'ils décrivent comme maçonnique et talmudiste.
Et les dirigeants actuels de ce MNC, on a des noms ?
Les textes mettent en avant Bruno Hiroot, Quentin Douté, Florian Rouanet, Guillaume Aguillet. Leur parcours, tel que décrit, montre un passé militant dans diverses organisations. RPR, UNI, FN, Parti de la France, Œuvre française, Renouveau français. On est clairement dans la mouvance nationaliste et identitaire.
Bon, on a fait un bon tour d'horizon. Ce qui se dégage, c'est une ligne assez claire, un nationalisme très lié à un catholicisme traditionnaliste, une critique radicale de la République, de certaines lectures de l'histoire, et puis ce positionnement géopolitique très marqué.
Absolument. Ce qui ressort vraiment de ces écrits, c'est la construction d'un récit alternatif. Ils puisent dans des références historiques, religieuses, bien spécifiques, pour justifier une vision du monde et un projet politique qui se veut en rupture complète.
Et ça soulève une question, peut-être pour prolonger la réflexion. Comment est-ce que cette articulation si forte entre une identité religieuse vue comme fondatrice et cette lecture très particulière de l'histoire nationale, comment tout ça façonne concrètement leur discours, mais aussi peut-être leur action politique aujourd'hui ?
C'est une piste intéressante.